Osmose.
Osmose.
Radio.
Vous.
Moi.
Moi.
Vous.
Moi.
Et moi.
De vous à moi.
De vous à moi, avec aujourd'hui le Tai Chi Chuan qui sera à l'honneur, un art de vivre qui permet de gérer ses tensions, de retrouver le tonus juste en équilibrant fonctions respiratoires, métaboliques et circulatoires. Le dos, les organes se trouvent renforcés. Tout le corps est ouvert à la conscience par l'attention aux sensations internes, à l'harmonisation du schéma corporel. Tai Chi Chuan est un chemin qui mène à l'accomplissement de soi de manière progressive et équilibrée. L'absence d'effort brutal permet de pratiquer cet art martial à tout âge. Et c'est ce que nous allons voir avec mon invité, Simon Guillemot. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que j'ai dit des bêtises ou on
non,
est
non.
bien dans le cadre ?
On est dans le cadre.
Parfait. Votre parcours, Simon, qui êtes-vous ?
Alors, moi, j'ai commencé le Tai Chi Chuan à 22 ans. Je l'ai rencontré sur ma route quand je suis venu faire mon master d'écologie à Montpellier. Je viens de Bretagne à l'origine. Et
on sait pas grave, on prend les Bretons aussi.
On prend les Bretons aussi, tout va bien. Voilà, donc je suis descendu du coup à Montpellier. J'ai croisé la route du Tai Chi et de l'école de François Loutrel, l'école ITCCA. Et donc, ça a été un coup de cœur, vraiment. Et donc, depuis, j'ai validé mon master et je suis vraiment parti dans le professorat de Tai Chi Chuan à partir de 3 ans de pratique. Voilà, donc maintenant, j'en suis à ma 8e année et je commence à enseigner des cours à Nîmes, à Marguerite.
Oui, dans un lieu magique, hein,
dans un
lieu, on peut en parler.
Oui, on peut en parler, du jardin intérieur qui accueille l'école ITCCA depuis 5-6 ans. J'y étais pas à l'origine, mais je crois que c'est à peu près ça. Et donc qui est un lieu magique ou qui tend à l'être, voilà, qui est un projet humain avec de multiples dimensions, d'accueil, de centres de soins. Donc une grande salle qui est réservée à la pratique du Tai Chi, des conférences qui ont lieu aussi sur...
Et des salons, on va en parler, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler cette semaine avec France Rousseau qui sera présente à votre place et qui nous parlera de ce salon du bien-être. En fait, c'est un lieu... qui est réservé au bien-être, j'ai l'impression.
Voilà, au bien-être et à tout ce qui tourne autour des arts énergétiques en général.
Mm-hmm. Voilà. Et des choses qui font du bien.
Et des choses qui font du bien.
Alors, je ne vous cache pas que le Tai Chi, je ne connais pas du tout. Donc, je vais jouer mon rôle de candide. Mm-hmm. J'ai vu qu'il y avait des mouvements. Hein, j'ai regardé une vidéo. Il y a des mouvements, ça paraît très, très souple. Très agréable et facile donc à pratiquer et à la portée de tous surtout.
Oui, donc on a, je ne sais pas si c'est les vidéos qu'on a mises sur notre site internet que vous avez été consultées.
Bien sûr.
Donc c'est l'histoire du Tai Chi, c'est un art martial interne dont l'origine remonte à une légende d'un grand maître de Kung Fu en Chine, au Moyen-Âge, qui, arrivant dans la force de l'âge, voyait sa force vitale décroître. Un grand guerrier invaincu et donc il a cherché à conserver tout son pouvoir. Et donc il s'est rendu pour ça dans une des 5 montagnes sacrées en Chine, qu'on appelle les monts Wudang, et il s'est fait enseigner là-bas par des moines taoïstes autour de la respiration et de la méditation. Et de cet enseignement et de sa connaissance des arts martiaux et du kung-fu, il a donné naissance, selon la légende, au Tai Chi Chuan. Mmh. Donc on a dans cette discipline à la fois tout ce que recouvre les arts martiaux, un travail de l'équilibre, des tensions, des choses comme ça, mais un grand côté aussi autour de la santé et donc de la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise est issue aussi de cette pensée taoïste.
Et il faut dire que c'est une médecine préventive, hein, ça
voilà.
C'est important. Nous, on attend en France de passer au curatif, on est un petit peu en retard là-dessus.
Ben, là-bas, en tout cas, ça fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que les acupuncteurs, par exemple en Chine, apparemment, n'étaient payés que quand leurs patients ne tombaient pas malades.
Ben
donc
voilà, ce serait une bonne chose.
À l'inverse de ce qu'on fait un petit peu ici.
Voilà, et on ferait des économies au niveau de la sécurité sociale.
Possiblement, il faudrait essayer.
Probablement, mais c'est pas gagné, hein, je vous le dis tout de suite.
C'est pas gagné.
Vu les difficultés, justement, qu'ont toutes ces médecines, entre guillemets, parallèles, de se faire admettre et reconnaître.
Oui, donc ça commence quand même à bouger pour le
un
Tai Chi.
Petit peu,
hein. Voilà, il y a 5-6 ans, sur les forums qu'on pouvait faire, les gens ne connaissaient pas le Tai Chi, le Qigong. Maintenant, ils viennent parce que leur médecin leur en a parlé ou parce qu'ils en ont vu dans des parcs, à Paris, à la télé, tout ça. Donc ça
voilà. Se démocratise un petit peu.
Ça se démocratise un peu.
C'est
une bonne chose. Le vent souffle dans le dos du Tai Chi en ce moment.
Bon, alors s'il souffle dans la bonne direction, c'est une excellente nouvelle. C'est une méthode qui permet aussi de remettre de l'ordre au niveau émotionnel, énergétique et mental. Ça, c'est important.
Oui, c'est important et ça découle vraiment de cette vision de la médecine chinoise qui apporte un message essentiel ou une ouverture proposée particulière pour notre pensée occidentale qui est qu'il y a vraiment un lien très étroit, voire aucune différence entre le corps et le niveau émotionnel. Mmh. Donc, dans la pratique du tai chi, en passant par une pratique corporelle, le fait de réguler notamment toutes les tensions musculaires sur tout l'ensemble du corps, on va voir apparaître au niveau émotionnel quelque chose qui se stabilise, qui circule mieux dans cette vision énergétique du qi, de ce que les Chinois appellent le qi. Ils disent que quand le qi circule librement dans le corps...
C'est quoi le qi, l'énergie ?
Alors le qi, c'est ce qu'on a traduit par énergie, très grossièrement, je dirais, en français. On parle plus souvent de souffle. L'image qui est donnée, c'est de souffle qui circulerait à travers tout le corps dans les méridiens d'acupuncture. Donc les acupuncteurs travaillent sur ce qi. Voilà. Donc dans le tai chi, on vise à redonner la possibilité au qi de circuler librement.
Très bien.
Voilà. Donc du coup...
Donc au souffle ou à l'énergie en fonction de l'application que l'on va mettre à ce mot.
Oui, hein, oui, oui. Là, le mot après, est... donc on pourrait choisir une définition vraiment précise. Ce qui va nous intéresser beaucoup dans la pratique du tai chi et du qigong, c'est de rendre conscient, rendre présent à la sensation vraiment ce niveau, que ça reste pas simplement un concept, une idée qu'on trouverait belle ou avec des belles perspectives, voilà, mais vraiment de se donner une chance de vivre ce qui est amené par la pratique du tai chi.
Il y a une question que je pose souvent à mes invités. Et en particulier dans un domaine que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, personnellement, Simon ?
Moi, personnellement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai rencontré cette pratique, parce que c'est sans doute un désir que j'avais depuis très jeune de faire des arts martiaux, que je n'avais pas été vers les arts martiaux. Donc, j'ai à la fois rencontré ce domaine qui m'importait beaucoup, et en plus cette vision de la santé et d'une certaine écologie humaine. Moi qui étais en train de valider un master d'écologie avec une spécialité sur les relations entre l'homme et son environnement, j'ai vraiment découvert des ponts avec cette discipline sur une manière de se vivre, une manière d'être en relation aussi avec les personnes qui nous entourent et l'environnement, la biosphère, tout ce qui fait partie du vivant. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler, vous parliez tout à l'heure de méditation ?
Oui.
C'est quoi cette méditation ? C'est un ancrage ? C'est une introspection ?
Alors, le tai chi peut être défini comme une méditation en mouvement, en comparatif à les postures plutôt classiques qu'on va retrouver en assise immobile extérieurement. L'idée du tai chi, c'est que dans cette qualité de mouvement fluide, ample, sans arrêt, ce mouvement va nous permettre petit à petit de retrouver effectivement un ancrage à l'intérieur, un centre autour duquel le mental va être apaisé et arriver à cette pensée silencieuse dont beaucoup de traditions, de courants de méditation parlent, qui fait toute la différence au quotidien quand on est enraciné dans cette qualité de silence intérieur.
Très bien. Vous êtes comment là maintenant ? Silence intérieur, pas trop, parce qu'il va falloir vous exprimer pendant 1h30.
Voilà, et puis
ça va aller.
C'est un exercice nouveau aussi, donc,
Est-ce que vous avez fait une séance de tai chi avant de venir ?
Moi, je pratique tous les matins. Donc
tous les matins. Combien de temps ?
Alors, ce qui a été demandé par Maître Chu, qui est le maître chinois qui a fondé cette école européenne, c'est une école ITCCA qui se retrouve sur toute l'Europe, il a demandé à ses enseignants au départ de pratiquer 4 heures par jour pour que le style puisse être en continuité dans l'histoire, que rien ne se perde. Lui pratiquait 8 heures par jour apparemment, son maître en pratiquait 12 et son maître avant lui en pratiquait 16. Donc pour nous, il est demandé 4 heures. Donc voilà, on essaye de glisser dans l'emploi du temps de la journée un petit peu, notamment le matin.
4 heures en suivant ou 4 heures
non,
dans la journée ?
Dans la journée, voilà. Donc en se levant un peu tôt le matin. En se levant un peu tôt le matin, c'est l'idéal. La journée n'est pas encore commencée. On est vraiment bien pour pratiquer entre 5h et 7h, on va dire, pour ceux qui aiment se lever tôt. Et après, il y a les cours du soir qu'on donne, voilà, qui sont aussi l'occasion de pratiquer avec un groupe.
Bon, et les membres de ce groupe qui viennent n'ont pas à pratiquer 4 heures.
Non,
parce
non,
que ce
non,
sont
non.
des gens qui travaillent, qui ont une activité, j'imagine.
Voilà. 4 heures, c'est juste pour les personnes qui se destinent à être enseignants et qui souhaitent transmettre ce style yang dans toute sa complétude. Mm-mm. Voilà. Non, nos adhérents pratiquent en général 2 cours par semaine. Donc ça fait quand même 2h30 par semaine, c'est bien.
Et un petit peu à la maison. On peut le pratiquer tout seul. On va voir, hein, oui. On va détailler comment est la méthode. Mais est-ce que ça peut se pratiquer seul chez soi?
Bien sûr, et c'est même l'idéal d'arriver vers ça petit à petit. C'est vraiment comme pour un instrument de musique, c'est en pratiquant qu'on va faire corps, qu'on va réussir à vraiment le vivre. Et donc le tai chi, malgré toutes les ouvertures que vous avez pu citer, qu'il propose sur la gestion des émotions, les mal de dos, tout ça, c'est vraiment en pratiquant que ça va devenir efficient. Ouais. Pas juste en s'inscrivant à un cours et en disant je suis inscrit, ça va marcher.
Oui, non, bien sûr, mais c'est comme tout ça.
Voilà.
Quelle est votre propre définition, Simon, du tai chi chuan?
Une propre définition.
Question piège.
Question piège. Donc, on parle de l'équilibre entre maîtrise et lâcher prise. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette idée d'être à la fois enraciné en soi-même, comme on en parlait, tout en étant en relation, vraiment d'être à ces deux endroits à l'intérieur. En même temps, intérieur et extérieur. Donc, dans cette pratique du tai chi, arriver à cette complétude, voilà. Donc, moi, c'est une des manières dont je présente le tai chi beaucoup en cours, dans cette idée-là.
Alors, justement, qui vient vous voir pour ces séances de tai chi? Est-ce qu'on appelle ça des séances, c'est ça?
Oui, on appelle ça des séances. Voilà.
Qui vient vous voir? Qui sont les gens qui viennent vers vous? Alors, les enfants, j'imagine, sont les parents qui les accompagnent. À partir de quel âge on peut pratiquer?
Alors, il y a des cours qui sont faits dans nos écoles entre 4 et 14 ans. Donc, des cours qui sont donnés vraiment par une enseignante qui s'est spécialisée sur ce côté des tai chi chuan enfants, avec une pédagogie particulière, des jeux tout autour des animaux, et de développer leur enracinement. Ils commencent à faire un peu de bâton, d'épée, des choses comme ça, mais dans quelque chose d'adapter à leur âge, qui sont différents de ce qu'on peut faire avec les cours adultes. Voilà. Et les personnes qui viennent nous voir, sinon, ça évolue un peu depuis 30 ans que l'école existe, que François Loutrel a créé cette école il y a 30 ans. Au départ, il y avait très peu de jeunes. Moi, quand je suis arrivé il y a 8 ans dans l'école, j'étais un des plus jeunes. Maintenant, la moyenne tend quand même à descendre un peu, donc ça fait plaisir de quitter cette image du tai chi qui est simplement une gymnastique de bien-être pour les personnes âgées. Mmh. Donc ça évolue, c'est bien. Globalement, on va avoir différents profils. Il y a des personnes qui viennent vraiment pour des soucis de stress dans leur vie en général et qui viennent se donner une parenthèse, un petit peu de sérénité. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont des soucis de santé, qu'ils ont pas réussi à trouver de réponse dans la médecine conventionnelle ou autre, et qui viennent un petit peu chercher autre chose et espérer, par rapport à tout ce qui est dit maintenant, trouver une réponse. Il y en a d'autres qui viennent pour le côté martial, qui ont fait beaucoup d'arts martiaux externes avant, du judo, karaté, kung-fu, aikido, taekwondo, et qui... souvent, ils ont 40 ans, ils se sont un peu blessés, ils commencent à rechercher une autre manière de pratiquer avec le corps. Voilà.
Uh-huh. Une autre recherche. Est-ce qu'il faut avoir une démarche, entre parenthèses, un petit peu spirituelle pour venir?
Non, du tout. Du tout, même si cette dimension, par spirituelle, on peut entendre vide l'esprit simplement, sans se donner d'autres perspectives. C'est une dimension qui peut être présente en tant que philosophie de vie, par exemple dans le tai chi. Elle est présente, nous, au sein de l'école. François Loutrel a beaucoup travaillé autour de la méditation. C'est des choses qui ont apporté du changement dans sa vie. Donc ça, c'est un partage qui peut être fait. Mais on n'impose pas ça à nos adhérents. Chacun, en fait, vient en fonction de ce qu'il est et va aller fouiller, creuser la dimension de cette pratique du tai chi qui lui correspond et qu'il souhaite trouver. Donc les trois premières années, elles sont vraiment, au niveau de l'apprentissage, un rythme lent, doux, pour que les gens comprennent ce qu'est le tai chi, le qigong, de voir ce nouveau paysage un peu qui s'ouvre. Et après, il y a différents temps, différents cours qui sont plus orientés selon telle ou telle thématique.
Mmh. Donc il faut déjà compter trois années.
Trois années, c'est le temps pour apprendre la forme, ce qu'on appelle la forme du tai chi. C'est cet enchaînement qu'on a pu voir dans des parcs en Chine, le mouvement lent, maintenant ça se fait dans les parcs à Paris aussi. Souvent les gens ont cette image de cette forme. Mm-hmm. C'est un enchaînement qui fait 108 mouvements, qui quand on le pratique, dure environ 20-25 minutes.
Voilà. Ouais. Et donc... je vais vous poser une question perso. Mm-hmm. Je fais du mouvement interne. Mm-hmm. Mouvement interne, c'est-à-dire que à l'intérieur ça bouge, à l'intérieur de nous.
Oui.
Il y a une mouvance qui se fait, et en laissant faire, en lâchant prise complètement... Bon, on a d'un seul coup, on va avoir le bras qui part tout seul et la main. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ça, avec cette méthode-là ?
Oui, dans le sens que le tai chi va à la fois, et surtout au début, beaucoup travailler sur le lâcher-prise. Ça veut dire que dans un premier temps, les mouvements sont montrés, mais de manière un petit peu réduite pour permettre au corps de lâcher les grandes zones de tension, que ça puisse se détendre d'abord. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure où la détente se retrouve globalement, alors on va pouvoir préciser les positions pour vraiment arriver à un mouvement optimal où le chi peut circuler librement.
Le chi,
les souffles, oui, l'énergie. Souffles.
D'accord. Alors, j'aimerais qu'on vienne à la pratique même de cet art martial. On arrive donc dans votre école. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on arrive et donc pour les rentrées, il y a deux cours d'essai gratuits. Donc, un cours, la structure générale d'un cours, c'est qu'on va commencer par des exercices de santé taoïste, qui sont des exercices à la fois de réveil articulaire et de détente musculaire. Ensuite, on va pratiquer le Qigong, donc on n'en a pas parlé encore.
Alors, justement, parce que vous l'associez tout le temps.
Voilà, on l'associe tout
le temps. Vous parlez de Tai Chi et Qigong.
En fait, dans la discipline du Tai Chi, il y a plusieurs pôles. Donc, il va y avoir cette pratique de la forme dont on a un peu parlé, ces exercices de santé taoïste. Et donc, il va y avoir cette pratique du Qigong, qui est une pratique qui vise à rendre conscient dans le corps cette circulation du Qi. Le Qi, donc, on a donné la définition tout à l'heure, c'est les souffles, l'énergie. Kong, ça veut dire travail. Donc, travail du souffle, travail du Qi, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, c'est une série d'exercices avec soit des positions immobiles, soit des enchaînements de mouvements, avec une intention particulière dans ce mouvement, et ça c'est très important, qui vont permettre de mettre le chi en mouvement dans le corps et de le rendre conscient au fur et à mesure de la pratique, petit à petit. Ensuite on va retrouver d'autres dimensions, qui sont la méditation dont on a un peu parlé, il y a le travail des armes également. Voilà.
Ça, tout ça dans une séance ?
Non. Ça, non. C'est sur un développement au fil du temps. Dans une séance, il y a exercice de santé taoïste.
Alors, c'est quoi ? Ça consiste en quoi, cet exercice de santé taoïste ?
Alors, ce sont 24 mouvements qui ont été codifiés par Maître Chu parmi un grand nombre qui visent à se donner le temps déjà d'arriver dans la séance, de laisser un petit peu la journée qui vient de s'écouler et de rentrer petit à petit un peu plus dans son corps, atterrir. Et donc de réveiller musculairement et les grandes articulations du corps également, réouvrir.
Ça consiste en quoi ? Des mouvements très lents, voilà. Sur les articulations, ça ?
Voilà, articulations et les chaînes musculaires, notamment du dos et l'arrière des jambes, où il y a beaucoup de tension. Voilà, donc mouvements lents, ne pas chercher à bien faire les choses, mais plutôt être avec le regard d'un enfant qui observe un mouvement globalement, qui essaye de l'imiter directement en passant par le regard pour laisser un peu la tête aussi de côté. Ça, il faut le réapprendre, ne pas chercher à analyser toujours le mouvement, à chercher à bien faire.
Laisser faire,
Laisser faire, faire confiance à ce qu'on voit et à l'interprétation de notre corps, se donner le temps. Voilà, ça est opérant, très opérant.
Alors, on commence par ces mouvements, ensuite.
Donc ensuite, on pratique du Qigong de manière générale. Donc soit les 6 Qigong principaux qu'on retrouve nous dans l'école, qui sont des Qigong de santé et qui sont également des Qigong martiaux. Il faut savoir que dans la famille du Qigong, il y a deux grandes catégories. Des Qigong qui sont vraiment dédiés à la santé, avec des visées thérapeutiques, et d'autres qui sont reliés à un niveau martial. Donc c'est là où on retrouve toutes ces légendes, de comment rendre une partie d'un corps très très fort, que même les lances n'arrivent pas à transpercer, ou autre. Dans notre école, c'est...
Les lances n'arrivent pas à transpercer.
Ah, il y a des légendes chinoises qui sont magnifiques.
Vous n'avez pas peur de rien, là ?
Ah non, c'est pas moi qui dis ça, c'est les histoires. Chez nous, c'est maintenant le tai chi, même si dans notre école, le niveau martial est très bien conservé, il est clair qu'aujourd'hui, on le pratique pour la santé.
En priorité.
En priorité, parce que voilà, c'est de ça dont il y a besoin beaucoup aujourd'hui.
Justement, niveau santé, on vient vous voir pourquoi ? Quand on a des douleurs, ça on a bien compris, du stress.
Voilà, problèmes émotionnels, souvent des gens qui sont sous tension. Les douleurs, ça va être beaucoup le dos, des gens qui ont des hernies discales, des choses comme ça, qui cherchent à conserver une activité physique, mais donc adaptée.
Ça soulage les hernies discales ?
Qu'est-ce que ça va soulager ? C'est que très souvent, le corps est tendu autour d'un traumatisme. où en utilisant son corps selon certaines positions, parfois on va forcer à certains endroits et donc ces zones-là vont être en surtension. Donc ce qui va soulager en général, c'est de retrouver des positions où globalement le corps fonctionne dans une unité et pas seulement une partie du corps qui compense pour l'ensemble. Donc le fait de retrouver cette unité du corps va soulager globalement ces zones qui sont en surtension.
Mmh. Combien de temps ça dure une séance ?
Une heure et quart.
Une heure et quart. Voilà. Et comment on se sent après ?
Alors, on n'a pas amené d'adhérents, donc...
c'est dommage.
C'est dommage. Les retours qu'on peut avoir, sans prêcher pour la paroisse, mais dans une idée de partage plutôt, c'est qu'au bout d'un an, en général, les gens se sentent apaisés, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel, globalement. Ils commencent à ressentir, ils ne savent pas forcément pourquoi ou comment ça marche, mais en tout cas, ils vivent quelque chose d'un peu plus tranquille à l'intérieur. Certains disent aussi qu'ils ont l'impression de retrouver plus d'espace dans leur corps, d'être moins serré dedans, comme si c'était plus grand tout d'un coup.
Ah oui.
Ouais, ouais.
C'est amusant comme définition.
C'est amusant comme définition.
J'aurais bien aimé avoir un adhérent là, ça aurait été sympa. C'est... Si on peut en joindre un par téléphone, je ne sais pas. On a la possibilité de faire ça.
Je ne sais pas si on va avoir la possibilité, on peut en y réfléchir, qui serait disponible et accepterait de parler comme ça.
C'est juste parler dans son téléphone, c'est rien du tout, mais au moins ça nous informerait vraiment sur ce que ressent quelqu'un, parce que là j'ai le professeur en face de moi.
Voilà, c'est pour ça que c'est délicat comme réponse.
Qui prêche pour sa paroisse, c'est tout à fait normal. Vous êtes un convaincu et passionné, j'imagine, dans ce que vous faites.
Oui, mais convaincu par un vécu, voilà, sur mes 8 années de pratique, ce qui n'est vraiment pas grand-chose pour le moment. Hein. François Loutrel pratique depuis 40 ans avec Maître Chou et continue à apprendre.
Mais il n'a pas le même âge que vous non plus.
Il n'a pas le même âge que moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à creuser dans le tai chi avec un vécu qui peut vraiment beaucoup s'affiner. Moi, sur mes 8 années de vécu, je vois ce que ça a changé pour moi. Du coup, j'en parle avec passion à ce niveau-là à mes élèves.
Et qui suit les cours ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes ou vice-versa ?
Non, c'est assez équilibré.
C'est équilibré ?
Oui.
Personnes âgées viennent aussi ?
Alors, personnes âgées viennent aussi.
Troisième âge ?
Plutôt un cours qu'on a ouvert au jardin intérieur le mardi en fin de matinée, voilà, qui est un horaire qui convient plutôt aux personnes âgées ou à la retraite. Sinon, l'école est en partenariat avec l'Office des seniors de la ville de Nîmes, ça, depuis 7 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et donc là, on a 2 cours par semaine avec une trentaine d'élèves qui ont entre 60 et 80 ans, 85 ans peut-être. Je n'ai pas demandé l'âge.
C'est super. Une première pause musicale, je ne me lancerai pas dans le titre, mais ce sont les flûtes japonaises. Ça va. Comment vous appelez ça ?
On appelle ça du sakuachi.
Voilà. Voilà, c'est une musique qui nous détend bien, ça.
Voilà, on s'en sert en cours, on s'en sert en cours pour ça. Là, ça fait un fond sonore sur lequel on peut
bouger lentement. On imagine tout
bouger,
de suite,
bouger lentement,
la lenteur.
Voilà, et avoir le mental qui aussi se pose sur cette musique, qui se laisse bercer.
Voilà, on déconnecte pas, hein, on reste bien connecté.
Oui, 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 et c'est même.
Bon, faut pas que le mental aille se percher au plafond.
Non,
ou des
au contraire.
Choses comme ça.
Au contraire, l'idée c'est vraiment de rendre une pratique corporelle consciente. Ça veut dire être dans ce qu'on fait ici et maintenant.
Ici et maintenant, ça c'est très important. Et prendre l'être dans sa globalité, c'est ce que j'avais envie de dire tout à l'heure quand vous parliez du corps, de l'esprit, de l'affect et de tout ça.
Voilà.
C'est un
voilà.
peu ça. Hein.
Qu'il n'y ait pas de coupure finalement comme on a pu le penser, et que quand on va agir sur le corps, l'affect va s'en trouver modifié, l'émotionnel. Ouais. On le voit avec la respiration qui se modifie dès qu'on a des émotions particulières.
Ouais, comme dirait Abel, libérer l'énergie vitale qui est en vous.
Voilà.
Quand il parle du Tai Chi Chuan.
Voilà, libérer l'énergie vitale, c'est cette idée qu'on développe autour des tensions musculaires dans notre école, de penser les tensions comme des endroits où l'énergie est bloquée, enkystée. Mmh. Et que très souvent, les gens nous disent « Ah, je suis en manque d'énergie, comment faire pour récupérer de l'énergie ?»
Quoi, cette sensation d'être à plat-plat le matin?
D'être à plat-plat le matin ou dans la journée, le soir, très globalement. Les gens souffrent soit de problèmes de sommeil, soit d'une vie trop trépidante et fatigante. Et donc, le message qui est apporté au départ, c'est d'essayer d'aller vers cette idée que finalement, beaucoup d'énergie serait dans le corps, mais bloquée. Et qu'en défaisant, en libérant ces tensions musculaires, on va retrouver un niveau énergétique beaucoup plus grand, simplement parce que ça circule enfin à nouveau. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur si on réussit à l'intérieur à retrouver quelque chose de fluide.
Je ne sais pas si vous avez bien répondu tout à l'heure à ma question, comment on se sent après une séance? Est-ce qu'on est fracassé?
Joyeux.
Est-ce qu'on est... On a sommeil? On est comment? Dans quel,
ça peut dépendre,
dans quel état sommes-nous?
Ça peut dépendre de la saison, ou ça peut dépendre depuis combien de temps on pratique. Au départ, par exemple, on voit des gens qui vont sortir de la séance en ayant transpiré et ne comprenant pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas bougé comme ils peuvent bouger quand ils faisaient du foot, du hand ou autre chose, parce qu'on va travailler le corps de manière vraiment très différente. Et souvent, ça surprend les gens au départ.
Pourquoi on transpire ?
Ben, on transpire parce que le fait de faire circuler le chi peut avoir pour manifestation une sensation de chaleur. Donc le corps va transpirer parce que quand ça se remet à circuler, on peut avoir chaud. Très chaud.
Est-ce qu'on sent cette circulation à l'intérieur de nous?
Oui, petit à petit, c'est ça. Quand on parlait du Qigong, on disait c'est rendre conscient cette circulation. Mmh. Et pour que ça devienne conscient, il faut se donner du temps que le corps s'ouvre à nouveau à cette perception.
Ce chi là, est véhiculé comment? Par la vascularisation?
C'est... Non, c'est là où les
occidentaux... Je vous ai dit, je suis candide complètement. Hein.
Oui, mais on a beaucoup de mal à avec ça. L'idée du chi qu'a amené la médecine chinoise, c'est que ce qui circule dans les méridiens d'acupuncture.
Oui.
Ce qui nous a posé problème au départ, c'est que nous, avec nos outils de médecine occidentale, on n'a pas réussi à trouver de structure comme il peut y en avoir pour le sang avec les vaisseaux sanguins. On commence maintenant, certaines expériences scientifiques commencent à trouver, je crois, par soit thermorégulation, soit par des recherches sur le magnétisme, à dessiner sur des imageries des trajets qui ressembleraient aux méridiens. Dans la pratique du tai-chi, on peut sentir effectivement une circulation, quelque chose qui s'installe comme un léger flottement, le corps qui devient très, très à la fois dense et à la fois léger, sans pour autant savoir particulièrement comment est-ce que ça véhicule dans le corps.
C'est ce que moi je vais appeler le mouvement interne.
Voilà, ça peut être des mouvements internes, mais qui ne sont pas des mouvements d'organes, ou qui ne sont pas des mouvements
non.
de... Voilà, c'est effectivement, on sent quelque chose qui vit à l'intérieur comme un souffle qui circule, sans pour autant savoir le localiser précisément.
C'est associé à un lâcher-prise.
Oui, c'est associé à un lâcher-prise.
Bien d'accord là-dessus.
Voilà, dans cette idée des tensions au départ, c'est qu'il faut d'abord beaucoup, beaucoup lâcher parce qu'on est trop dans la maîtrise et pas assez dans lâcher-prise.
Dans le vouloir.
Voilà, on est trop dans le vouloir, dans le faire, dans le vouloir-faire.
Ouais.
Et donc il faut rééquilibrer ça. C'est pas qu'il faut le lâcher, mais c'est qu'il faut trouver un juste équilibre entre quelque chose qui serait plus yang, de l'ordre du vouloir, quelque chose qui serait plus yin, de l'ordre du laisser faire les choses.
Est-ce qu'il y a des émotions qui lâchent pendant une séance?
Peu, parce que les gens se contiennent bien quand même.
Est-ce que c'est bien de se contenir?
Non. Nous, les premiers cours, on dit aux gens, si vous avez envie de sortir dehors, de crier, allez-y, faites comme chez vous. voilà, le message est donné, mais très peu le fond. Bien sûr, on est
Voilà, on est trop conditionné. Voilà, il faudrait vraiment lâcher, là. On parle de lâcher prise, il faut qu'il soit total.
Oui, il faut qu'il soit total, même si on va plutôt chercher un lâcher prise au niveau du corps et que l'émotionnel est lâche pas d'un coup comme dans d'autres thérapies, possiblement. Ça va être peut-être plus progressif, plus lent. Il y a... Moi-même, dans ma pratique, j'ai pas senti à un moment besoin d'aller crier non plus dehors ou d'avoir envie de pleurer ou autre, je ne sais quelle émotion. C'est plutôt un apaisement qui se fait sur la durée.
La respiration. Donc on respire, nous on est bidon là, complètement dans notre manière de respirer normalement.
Non, pas bidon. Il y a différents modes respiratoires pour le corps. Le tai chi en propose un vraiment particulier. Même si au départ de la pratique, on va peu travailler la respiration. J'explique pourquoi. C'est que dans la médecine chinoise, il est dit que la respiration, c'est la plus grande sagesse du corps. Ça veut dire qu'elle est vraiment adaptée à ce qu'on vit et à notre état de tension intérieure. Si on cherche à travailler la respiration alors que le corps n'est pas prêt, c'est comme si on allait renforcer finalement les tensions internes et les tensions émotionnelles qui nous agissent. Donc dans cette idée du lâcher prise et de la détente, au départ, on va plutôt chercher à ce que musculairement tout soit apaisé autour pour que la respiration retrouve une place plus grande, que le diaphragme soit souple à nouveau. Quand le corps est prêt, alors on va pouvoir commencer la respiration interne, qui est une respiration qu'on commence vraiment à pratiquer à partir de la quatrième année.
Ah oui, d'accord.
On en parle au départ.
Ça ne se fait pas tout seul, il faut quand même pas mal de temps.
Voilà, il faut sortir de cette idée aussi d'être oppressé et d'arriver à un résultat tout de suite, parce qu'entre le temps qu'on a dans le vouloir et le temps du corps et le temps émotionnel, c'est parfois différent de ce qu'on a envie. Donc il faut retrouver cette patience-là.
Est-ce que les gens vont au bout de cette démarche ?
Oui.
Un an, après on renouvelle, 2 ans, 3 ans et 4 ans, donc, en général
En général, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font 1 an et puis finalement qui vont aller essayer autre chose. Et une autre moitié qui continue 2 ans, 3 ans et qui accède au niveau 4e année et plus, voilà, avancé. Mmh. Il y a des gens qui sont dans l'école depuis 17 ans, 18 ans.
Ah oui, oui tant oui. que ça.
Des passionnés aussi, sans doute.
Uh-huh. Bon, ils ont un niveau surélevé, ces personnes-là, non ? Au bout de tant d'années.
Pas surélevé, parce que...
Surélevé par rapport à celui qui commence, je veux dire. Celui qui a fait 1 an ou 2.
Bien sûr, mais parce que le niveau surélevé, la puissance que pourrait amener, par exemple, le tai chi, c'est simplement une puissance naturelle. C'est-à-dire que quand le corps fonctionne normalement, c'est puissant. C'est pas un niveau musculaire ou autre, c'est que globalement, comme... l'image d'une cathédrale, par exemple. Quand on appuie à un endroit, globalement, tout le poids est réparti sur l'ensemble de l'architecture de la cathédrale. C'est tout l'ensemble qui supporte la gravité. Au niveau du tai chi, quand l'idée, c'est que lorsqu'il y a une repoussée, par exemple, au niveau de la main, que globalement, tout le corps soit derrière cette main, que l'ensemble soit relié. Donc pour ça, il faut du temps pour arriver à retrouver une bonne position au niveau du schéma corporel. Mmh. Ensuite, à retrouver comment faire circuler le chi dans ce schéma corporel, voilà, et tout ça, ce n'est qu'un retour finalement à un fonctionnement originel du corps humain et qui développe une puissance, mais qui n'est pas quelque chose de travaillé. On dit au tai chi, on ne va rien apprendre. Soyez tranquille, vous n'apprendrez rien ici. Vous allez désapprendre beaucoup de choses, désapprendre beaucoup d'habitudes du corps qui se sont installées avec le temps.
On formate.
Voilà,
c'est ça.
C'est pas un formatage, au contraire, c'est plutôt de prendre conscience de choses, de se dire mais pourquoi est-ce qu'elles sont là, par exemple, ces tensions, et puis si on accepte à un moment donné de lâcher prise, alors on le voit qu'elles s'en vont et que derrière c'est très joyeux, c'est plein de vie, c'est puissant. Et...
Alors on parle d'excellent anti-stress.
Oui, pour les raisons qu'on a pu évoquer tout à l'heure.
On parle de joie de vivre.
Voilà, on parle de joie de vivre. La joie serait la manifestation de la libre circulation du chi. Que la joie serait un état normalement naturel pour tout être humain, si on s'en donne un petit peu les moyens, effectivement.
Mais... Bon, Simon, je vous ai en face de moi, vous êtes un grand garçon tout calme.
Oui.
Vous êtes toujours calme comme ça ?
Non.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous énerver, là ?
Ouais, y a plein de choses. Je pourrais vous donner des boutons sur lesquels appuyer. Après, il faut se méfier aussi des. Il y a l'apparence et la profondeur. C'est-à-dire qu'on peut être face à des personnes qui sont calmes en apparence, mais à l'intérieur, c'est un feu pas possible. Donc, ça, en acupuncture, par exemple, ce sera bien différencié dans le diagnostic.
On parlait des méridiens. Il y a combien de méridiens déjà ?
Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Ceux dont on entend parler en acupuncture, en général, ce sont les 12 grands méridiens qui circulent à la périphérie du corps.
D'accord. Et les acupuncteurs s'en servent énormément, ça c'est sûr. Alors, il y a des choses bizarres là, chez vous.
Ah.
Bah oui, parce que je me suis quand même un tout petit peu renseignée. Et il y a des mouvements qui s'enchaînent et qui ont des noms.
Oui, comme
il y a des formes. La forme du serpent, par exemple.
Voilà. Alors ça, c'est des noms qui sont donnés à la forme dans cette pédagogie de l'enseignement dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure.
On va revenir là-dessus, si vous voulez.
D'accord.
C'est important, hein,
oui,
je pense.
C'est très important parce qu'il y a beaucoup de confusion et des écoles qui ont porté un certain message par rapport à cette forme du serpent avec laquelle nous, on n'est pas en accord. Chez nous, cette forme du serpent, c'est une forme qui est spécifique dans les positions du schéma corporel et qui est faite pour détendre au départ les épaules et les grands muscles tout autour du bassin. Ils sont deux zones clés, charnières du corps, pour lesquelles on a beaucoup de tension. Donc on va commencer dans l'école par pratiquer cette forme du serpent, qui est une forme débutante.
Alors, c'est quoi ? C'est une forme que l'on donne avec notre corps ?
C'est plutôt une manière de pratiquer cet enchaînement de 108 mouvements que propose le tai chi. Ça veut dire que dans cette forme, par exemple, on va avoir les coudes très bas pour que les épaules soient relâchées. On va avoir l'axe qui est légèrement penché en avant, même si le dos reste droit, mais l'axe est penché en avant. Et au niveau du mouvement du bassin, on va avoir des grands mouvements de bassin d'un orient à l'autre. Mm-hmm. Voilà, pour
d'un orient à l'autre ?
D'un orient à l'autre. On parle de nord, d'ouest, d'est, de sud. Et qu'on va dans la forme, on dit tel mouvement se fait au nord, puis on va tourner ensuite à l'ouest. Voilà. Et ces mouvements se font à partir du centre et vont effectuer comme un massage des organes internes, des muscles, voilà, pour détendre petit à petit ces zones clés.
Ok.
Ensuite, on va avoir la forme du tigre. La forme du tigre, c'est ces formes, elles recouvrent à la fois quelque chose de pédagogique et aussi au niveau historique. C'est qu'en fait, le tai chi était secret au départ et s'est dévoilé.
Et c'était secret ? On n'en parlait pas ? C'était tabou ?
C'était pas tabou, c'était que les familles qui se préservaient cette connaissance vraiment importante au Moyen-Âge et que le niveau martial à l'époque avait une importance tout à fait différente que pour nous aujourd'hui, que du coup ces secrets de longévité, de renforcement du corps étaient vraiment préservés. Quand le tai chi est sorti des familles et a commencé à se répandre au niveau du peuple chinois, simplement du peuple chinois, ce qui a été montré, c'est vraiment une forme publique, ça veut dire les choses vraiment débutantes. Les secrets étaient encore gardés, ils ont juste commencé à dire, regardez, nous on fait un petit peu ça, mais ils n'ont rien montré du tout, très peu, juste le commencement. Et ensuite, maître après maître, certains ont partagé un peu plus, jusqu'à Maître Chu, qui pour nous aujourd'hui, a partagé jusqu'au plus haut niveau, quitte à se fâcher
avec tout le monde.
Légèrement, un petit peu, avec certains maîtres en Chine là-bas, parce que c'était donné aux Occidentaux.
Ah oui.
Voilà. Donc cette forme du tigre, qui est la deuxième après la forme du serpent, est une forme où on se redresse un peu, et qui est un peu, l'axe se redresse à la verticale, les coudes restent bas, et donc c'est une forme qui est très intéressante au niveau martial, qui est très puissante. Mais par rapport à la circulation du chi, il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées pour arriver à cette puissance que donne le chi par rapport au musculaire, qui est vraiment en dessous de cette puissance du chi.
Il y a vraiment des moments où je regrette qu'on ne soit pas une web télé en même temps, parce que je vous aurais demandé d'effectuer ces mouvements. Comment on fait pour retenir 108 mouvements qui s'enchaînent ? Parce que c'est une chorégraphie là, carrément.
C'est une chorégraphie consciente, ça veut dire que c'est une chorégraphie avec une intention vraiment spécifique à chaque mouvement. En fait, l'enchaînement est un enchaînement d'attaque et de défense. Dans ce côté martial
aussi,
à l'origine, c'est-à-dire qu'on a une intention sur chaque mouvement de parer vers le haut, de parer vers le bas, d'amener au sol, de repousser. Donc cet enchaînement-là, 208 mouvements, il va se retenir au départ avec la tête, parce qu'on apprend ces mouvements, mais en pratiquant, petit à petit, c'est le corps qui va vivre ces mouvements et qui va aider à cette mémorisation. C'est pas quelque chose qui va charger la tête et c'est tout. Tout ce qu'on ne recherche pas au départ, c'est justement de se donner ce temps de pratiquer. Si on ne pratique pas suffisamment et qu'on apprend juste des nouveaux mouvements à chaque cours, en fait, ça peut fatiguer la tête. Et, Et donc, du coup, on demande aux gens de se faire ce cadeau-là, de pratiquer un petit peu chez eux au quotidien, parce que c'est comme ça que le tai chi va vraiment devenir opérant, que le corps rentre dans l'histoire pleinement.
Donc, ces 108 mouvements vont s'apprendre en plusieurs fois.
En 3 années, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les trois premières années sont dédiées à l'apprentissage de ce mouvement. Première partie, première année, deuxième partie, deuxième année, troisième partie, troisième.
Ok, ouais. Alors avant 3 ans, on n'arrive pas à faire ces formes de tigre et de serpent ?
On pratique la forme du serpent la première, deuxième année, on va dire. La troisième année, on commence à avoir des principes de la forme du tigre. Et à partir de la quatrième année, la forme des oiseaux est enseignée. On revient sur la forme du serpent parce qu'il y a encore beaucoup de choses à creuser. La détente, ça met du temps à arriver complètement aussi. Donc après, on navigue entre ces trois formes. En sachant que Maître Chou maintenant n'enseigne plus, lui, que la forme des oiseaux. Il a commencé le début de sa carrière en commençant ses formes débutantes et progressivement, sur 50 ans, comme ça, il a développé son enseignement.
Très bien. Ça marche sur les animaux aussi ?
Alors, il y a des noms d'animaux dans la forme. On retrouve tout cet univers de la poésie chinoise, de la nature chinoise. Donc, on va les retrouver dans des postures particulières de la forme. Le travail après avec les animaux se fait beaucoup dans les cours enfants. Beaucoup dans les cours enfants.
Je doute quand même que ça marche sur l'animal qui va suivre, c'est éléphant.
Éléphant
avec Collectif Mon Amour. On écoute ça, on se retrouve tout de suite après, Simon.
Merci.
Voilà, la forme de l'éléphant, ne cherchez pas, ça marche pas, il y en a pas. Il y a forme du serpent, forme du tigre, et forme des oiseaux.
Voilà,
c'est bon, ça. Et moi j'ai un autre mot, après j'ai la boxe.
Alors la boxe, c'est le nom qui est donné à l'enchaînement de la forme, on appelle ça la boxe. Le tai chi, par exemple, parfois est appelé la boxe avec son ombre aussi. Dans cette idée que ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est que c'est un combat ou une pratique qu'on va faire vis-à-vis de soi-même, de ses tensions, de ses jeux émotionnels qu'on peut avoir, plus que de chercher à gagner un combat par rapport à un partenaire.
Et si on nous attaque, c'est de la défense là, si on nous attaque, non ? On peut s'en servir ou pas ?
On peut s'en servir en sachant que pour être vraiment bon martialement au tai chi, il faudrait avoir 30 ans de pratique derrière soi. Et que, voilà, pour se battre dans la rue, vaut mieux aller apprendre quelque chose de self-défense ou autre qui est vraiment orienté là-dessus. Nous, dans le tai chi, l'idée est de réouvrir le corps, de le remplir de vie. Ça prend beaucoup plus de temps que de le fermer à certains endroits, d'être dans des positions un peu dures qui vont être efficaces pour se défendre, mais qui vont pas nous intéresser du tout d'un point de vue de la santé. Donc pour réussir à être dans une dimension de combat martial et à la fois être plein de cette vie, de ce chi, ça va être autre chose.
Très bien. Bon, alors petit à petit, hein, on commence à apprendre. Alors diversité des pratiques et de techniques gestuelles et énergétiques, oui. Hein, c'est ce dont on vient de parler, donc voilà. Toutes ces formes.
Voilà, que le tai chi est vraiment un art martial interne, donc énergétique.
Voilà, et on a quelqu'un pour en parler avec nous. À l'autre bout du fil, bonjour Claire.
Bonjour.
Alors, je suis avec Simon.
Oui.
Et nous parlons donc du tai chi. Alors, en tant que bonne candide, parce que je ne connais pas du tout cette méthode, et oui. J'avais envie d'entendre quelqu'un qui la pratique depuis un petit moment.
D'abord, je ne parlerai pas de méthode. Moi, je dirais plutôt que c'est un art de vivre.
D'accord.
Déjà, donc il me semble que dans le tai chi, on ne parle pas vraiment de technique parce que c'est vraiment un ensemble de choses que l'on met en pratique à la fois au travers du tai chi, mais qui vous pénètrent petit à petit au quotidien, on va dire.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment une façon de vivre les choses qui est à la fois très subtile et très, très évidente, en fait. C'est vrai que les choses deviennent naturellement assez très agréables, on va dire.
Vous pratiquez vous-même, Claire, depuis combien de temps cet art de vivre ?
Disons que ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé.
Ah, quand même !
Mais je ne suis pas une très grande assidue, mais je peux dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'a... au final, au bout des années, on se rend compte que ça vous pénètre vraiment, quoi. Au début, on se dit, c'est maintenant que ça agit, mmh. Et au fur et à mesure, on a l'impression que plus on en fait, plus on rentre à l'intérieur, quoi, dans une qualité d'énergie qui est effectivement très subtile, mais qui vous ramène aussi à des états d'enfance, donc des choses qu'on a déjà connues, on va dire. Donc il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose de très étrange à ce que l'on connaît, c'est plutôt des choses que l'on a connues et que l'on retrouve au fur et à mesure que l'on pratique le tai chi.
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette orientation tai chi ? J'ose plus dire méthode maintenant.
Non, vous pouvez dire comme vous voulez. C'est des façons de ressentir les choses. Qu'est-ce qui m'a amené à ça ? En fait, moi, je suis psychomotricienne et au cours de mes études, j'avais fait un atelier de tai chi et j'étais tombée dedans vraiment comme on tombe en pamoison, je veux dire. J'ai eu une espèce de révélation, mais qui a duré très peu de temps, un flash. J'ai pratiqué un atelier de tai chi avec des personnes âgées, et c'était encadré par une de nos profs, qui était aussi à l'époque une vieille dame très active et qui m'impressionnait beaucoup parce qu'elle faisait du parachutisme, elle faisait plein de choses comme ça, elle faisait aussi du tai chi, elle faisait ça avec des personnes âgées. Et j'avais trouvé la vitalité de ces gens absolument extraordinaire, et le temps que j'avais pratiqué avec eux, j'avais vraiment eu une impression absolument extraordinaire, quoi. J'avais été transportée dans un autre lieu et en même temps, j'étais complètement avec ces gens.
Ouais.
Et j'avais trouvé la douceur du mouvement et la présence, la qualité de présence des gens autour de moi absolument exceptionnelle. Et je m'étais dit, un jour, si je peux faire ça, j'en referai. Donc, quand je suis arrivée à Nîmes et que j'ai entendu parler du tai chi, que je suis allée à la rencontre de cette école et que j'ai rencontré effectivement... les enseignants, j'ai vraiment eu envie de continuer.
Et d'aller plus loin.
Voilà, c'est ça, ouais. Si c'est quand même quelque chose de difficile, hein, de ardu aussi, de s'y tenir, d'y retourner. Enfin voilà, quoi, c'est pas... c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident.
C'est une priorité que vous mettez pour votre bien-être et votre santé ?
Ouais, je dirais ça comme ça, oui. Tout à fait.
Qu'est-ce que ça change au quotidien, Claire ?
Je dirais que ça amène plus de tranquillité, plus de douceur dans les choses aussi. Ça permet de, un petit peu comme si on mettait un tampon, une éponge entre soi et l'agression qu'on peut ressentir.
Du monde extérieur.
Ouais, du monde extérieur. Le monde extérieur n'est pas forcément agressif, mais soit émotionnellement, on peut souvent ressentir les choses de façon très sensible comme ça. Mmh. Et apprendre à respirer, apprendre à être dans une qualité d'énergie que l'on connaît mieux, ça permet justement de temporiser les choses et d'avoir ce qu'on appelle en tai chi préserver son jardin intérieur.
Ouais, c'est joli, c'est une belle image. Toujours Simon, qu'est-ce qu'il y aurait à ajouter sur le commentaire de Claire ?
Sur le commentaire de Claire, non, mais Je j'entends tout à fait ce qu'elle dit, c'est quelque chose que je retrouve moi aussi dans ma pratique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, c'est la vision de la manière dont elle le décrit. Je trouve ça très, très intéressant, très compréhensible pour les personnes qui peuvent nous écouter.
Est-ce que vous pratiquez ensemble tous les deux ?
Alors, on se retrouve au cours des élèves avancés, effectivement.
Oui.
À Nîmes.
À Nîmes. Et est-ce que c'est individuel comme parcours ou ça se partage, Claire ?
Ça se partage beaucoup, ouais.
Ça se partage beaucoup.
Ça se partage beaucoup, ouais, parce qu'il y a beaucoup de travail à deux, ce qu'on appelle. Oui, puis on a besoin de partager des expériences. C'est en même temps un chemin très personnel. Mm-hmm. C'est très personnel, effectivement, parce que chacun va à son rythme. Je suis bien placée pour le dire, parce que moi, j'ai vraiment besoin d'aller à mon rythme. Simon est, par exemple, beaucoup plus avancé que moi pour
et
certaines
il,
choses.
Et hein. Il en a fait moins.
C'est un enseignant, etc. Voilà. Et en même temps, on se retrouve autour d'expériences communes et de partager l'expérience de l'énergie. Ouais, c'est bon, on parle beaucoup de l'énergie maintenant et ça veut plus rien dire, mais cette expérience sensible et subtile que l'on peut partager au travers du tai chi, ouais, elle est extrêmement enrichissante au niveau relationnel. Et puis on partage plein de choses, des fous rires, des pique-niques, des stages. Voilà, c'est très vivant le tai chi.
Entre tous les adhérents, vous partagez des choses comme ça ? Des moments comme ça ?
Voilà, il y a un moment comme ça, une fois par mois, pour un cours phare, ce qu'on appelle un cours phare, qui est tenu par François Loutrel, qui regroupe l'ensemble des niveaux, des élèves de l'école, et qui est un cours orienté sur un point clé du tai chi. Par exemple, l'enracinement dans le sol, ou la respiration, le tonus musculaire. Et ces cours se terminent en général avec un petit buffet et possiblement des partages d'expériences de certains de nos élèves qui vont partager leur passion, qui vont partager le travail humanitaire qu'ils peuvent faire ou le travail qu'ils font dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ça c'est une première forme de partage. Ensuite on essaye pendant les stages aussi d'avoir des temps conviviaux comme ça, de se rencontrer aussi en dehors de la pratique.
Est-ce qu'il y a ce que je vais appeler des groupes de parole où vous échangez sur vos sensations ?
Dans certains stages, les soirées, la fin du stage se termine par des cafés philo, un petit peu autour du mouvement, de la philosophie du mouvement, et essayer à un moment donné aussi de pouvoir penser son tai chi, pouvoir le vivre et en même temps de pouvoir le penser pour essayer d'élaborer une conception un peu nouvelle, de sortir des idées reçues qu'on a pu recevoir à un moment donné, se donner la chance d'entrouvrir d'autres choses par la parole et par l'échange.
Claire, j'ai pas bien saisi, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis psychomotricienne.
D'accord.
Je travaille avec des enfants.
Avec des enfants.
Voilà, donc effectivement, c'est un métier où effectivement l'engagement corporel et émotionnel est très important.
Oui, j'imagine.
Donc, voilà, le tai chi m'a beaucoup apporté de ce point de vue-là.
Mm-hmm. S'il n'y avait pas eu le tai chi, ça aurait été beaucoup plus difficile.
Exactement, oui, tout à fait. Oui, ce sont des métiers qui prennent beaucoup aussi nerveusement et le tai chi aide beaucoup, effectivement, à prendre les choses peut-être plus tranquillement et à faire la part des choses entre soi et l'autre.
Très bien, je trouve que c'est un très beau témoignage. On va vous remercier, Claire.
Merci, Claire.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Et bonne continuation. Au revoir.
Merci, au revoir.
Vous ne m'aviez pas parlé de ce travail à deux, cachotier.
On n'en avait pas encore parlé.
Non, alors j'aimerais bien qu'on en parle.
Alors, ce travail à deux n'est pas présent dans toutes les écoles de tai chi, Chez nous, il tient une place primordiale dans cette idée d'être à la fois en relation avec son monde intérieur, donc ça on en a beaucoup parlé, d'arriver à la détente, à retrouver un petit peu un enracinement dans son propre corps, mais ensuite à mettre à l'épreuve, entre guillemets, cette qualité d'enracinement, de sérénité intérieure, dans une relation à deux. Et pour pouvoir aussi un peu défaire les images ou les processus qui se mettent en route dès qu'on est dans une relation. Tout ce qui est de l'ordre de l'automate un petit peu, qui s'est créé depuis au fil de notre histoire, dans une pratique de travail à deux très codifiée dans le tai chi, de réussir à défaire ces nœuds émotionnels, ces nœuds de la relation, toujours en accord avec cette pensée de la médecine chinoise, du yin, du yang, comment réussir à être à la fois qui l'on est tout en étant dans une écoute et une ouverture à l'autre, être en relation.
Concrètement, ça se passe comment?
Dans un exercice phare qu'ils appellent le tui chou. Le tui chou en chinois, ça veut dire main collante. C'est un exercice où on est en contact avec le partenaire.
Attendez, je vais noter ça parce qu'au moins je connaîtrais un mot de chinois, ce qui n'est pas facile à tui chou. Dans une conversation. Main collante.
Tui chou, main collante. Donc cette idée des mains collantes, c'est qu'on est en contact avec le poignet, en général, du partenaire, poignet contre poignet. Et c'est un mouvement où on va retrouver une alternance de temps yang, où on va en avant, et de temps yin, où on recule. Sur ces temps-là, on essaye d'harmoniser le yin et le yang. Ça veut dire que quand le partenaire va amener un repoussé, on ne va pas s'y opposer, pour être dans une situation yang contre yang qui est fatigante pour les deux personnes finalement, mais plutôt être dans une attitude d'écoute, de réussir à dévier, à transformer ce yang si nécessaire pour conserver son jardin intérieur, son espace, et ensuite soit pouvoir avoir un mouvement yang lorsque la personne a terminé son mouvement yang. De retrouver une gestion du temps et de l'espace très particulière où on va essayer de quitter cette attitude de confrontement d'affrontement qu'on retrouve dans beaucoup de situations au quotidien. Donc c'est ça qui est magique pour moi dans le tai chi, ce dont parlait Claire un petit peu, c'est là où il pénètre la vie quotidienne petit à petit, c'est qu'avec la pensée analogique, avec les ponts que l'on peut faire entre cette pratique physique, martiale,
et les situations que l'on rencontre. Une pratique qui se passe dans la salle et ce qu'on rencontre dans la vie courante.
Voilà.
De tous les jours.
Voilà, c'est ça.
Donc, ça améliore la personnalité ?
Non, ça ne va pas améliorer la personnalité. On ne va pas chercher à nourrir la personnalité qui est souvent bien construite et bien à sa place. Plutôt essayer de nourrir autre chose, de sérénité ou de retrouver un peu plus sa place, être peut-être un peu plus humble ou autre, que ce soit des vertus qui se développent comme ça petit à petit, mais la personnalité souvent chez nous occidentaux elle est bien en place, c'est pas qu'elle va bien, mais c'est que c'est pas il n'y a pas à l'améliorer, je pense, c'est plutôt aller renourrir autre chose à côté qui serait comme en vide pour que cette personnalité retrouve une place plus juste. Qu'elle ait moins de cette omnipotence qu'elle peut avoir.
Très bien. Alors, on va parler des coûts quand même.
Oui,
savoir
avec plaisir.
Combien ça coûte de pratiquer.
Des coûts, d'accord. Il y a l'écoute
aussi.
Oui, alors après,
mais on va en parler aussi de l'écoute. J'ai bien compris que l'écoute était très importante dans tout cela. Ce sont des ateliers, comment vous appelez ça? Des stages? Ateliers?
Alors, il y a des stages qui sont organisés au cours de l'année, notamment les stages découvertes en ce moment pour découvrir la pratique du tai chi, les gens qui voudraient commencer. Donc ça, c'est des stages qui coûtent 20 euros la matinée. Et ensuite, sinon, au cours de l'année, des cursus de stages pour nos élèves, pour pratiquer un peu plus intensément, se donner un peu plus de temps pour pratiquer.
Ouais, vous disiez que les adhérents viennent une fois ou deux par semaine, c'est ça à peu près, c'est le rythme.
À peu près. Nous, l'école propose 3-4 cours hebdomadaires possibles. L'inscription dans l'école donne accès à l'ensemble de ces cours. C'est-à-dire que ce n'est pas une inscription pour un créneau horaire seulement dans la semaine.
On vient quand on veut
en fonction de son emploi du temps.
Très bien, donc il y a libre circulation des adhérents.
Voilà.
Pendant les heures d'ouverture.
Voilà, c'est ça.
Et combien ça coûte?
Donc ça coûte 290 euros. L'inscription à l'année.
À l'année. D'accord. Et à partir de là, on vient quand on veut, comme on veut.
Voilà.
Une fois par semaine, deux fois. Et ceux qui le peuvent, même trois fois.
Jusqu'à quatre fois.
Oui.
Il y a quatre fois par semaine, ce qui est vraiment beaucoup, ouais.
Oui. Et qui vient quatre fois? Justement, les personnes qui n'ont plus de. Les retraités?
Oui, les retraités. On a beaucoup de retraités qui font au moins trois cours. Je ne sais pas s'ils font les quatre. Après, sinon, des personnes très motivées, passionnées, sous le charme, en coup de cœur, voilà, qui se lancent comme ça d'un coup pleinement, comme j'ai pu le faire quand j'ai commencé.
Donc c'est intéressant peut-être d'aller à ces séances d'initiation, justement pour mettre un pied dedans et découvrir.
Voilà, sur 2h30, on a un peu plus de temps pour présenter les différentes facettes dont on a parlé depuis ce midi. Les cours gratuits qu'on fait comme beaucoup d'écoles en début d'année, c'est un cours d'une heure et quart, donc c'est un peu plus serré. Là, on a 2h30, on a vraiment le temps de boire un thé, même à la fin, d'échanger, d'avoir des questions vraiment plus personnelles, savoir les questions que les gens ont, et puis de pouvoir répondre plus précisément à ces demandes.
À force de venir, comme ça, il se crée des liens parmi les adhérents aussi.
Oui.
Sûrement.
Oui, sûrement. Et c'est tant mieux, la vie associative est importante aussi pour le club.
Je vois que c'est ouvert en soirée également.
Les horaires
horaires d'ouverture.
Les horaires d'ouverture, c'est principalement en soirée, après la journée de travail. Donc les premiers cours, c'est à 18h30. Il y a des cours ensuite à 19h45. Et pour les plus tard, au centre Pablo Neruda, par exemple, pour l'école de Nîmes, ça va être de 21h à 22h30, par exemple.
Ah, quand même.
Voilà, c'est un horaire qui semble convenir. Moi, qu'on essaye depuis 2 ans. Mais qui semble convenir à certaines personnes qui, après manger le soir, avant de se coucher, aiment bien avoir un cours de tai chi ou de méditation.
Pour rentrer zen à la maison.
Voilà, pour clôturer la journée, pour clôturer la journée un peu plus tranquille. Donc, nous, on encourage ça, en tout cas, on l'essaye.
Bien sûr, bien sûr. En plus, le lieu, comme je le disais tout à l'heure, le jardin intérieur, c'est vraiment un très joli lieu. Il ne faut pas hésiter, si vous êtes sur Nîmes ou pas très loin,
À venir visiter, à appeler. Absolument. Ou venir visiter comme ça. On sera très heureux de partager un peu tout ce qui se trouve autour de ce lieu.
Que l'on appelle une bulle de sérénité. C'est un peu ça.
Voilà, c'est un peu ça. Les gens sont parfois surpris quand ils arrivent au sein d'une zone artisanale avec des magasins. Il y a un marchand de remorques parfois qui n'est pas très loin. Il y a un tailleur de pierre. Et au milieu, de trouver un lieu comme ça dédié à la sérénité, aux arts énergétiques, à la méditation, souvent les gens
disent
à l'intérieur, il y a... Voilà, on a quitté la zone artisanale et on rentre vraiment dans quelque chose de très particulier.
Et il se passe d'autres choses en dehors du Tai Chi Chuan, là-bas ?
Il se passe beaucoup d'autres choses. Il y a une autre formation qui est accueillie tout au long de l'année, qui est une formation qui s'appelle l'Emniscate Processus, qui est une formation autour de l'idée phare de devenir son propre thérapeute. Donc c'est une formation pour penser de manière un peu plus approfondie ce qu'amène la pratique du Tai Chi Chuan dans cette idée d'être qui on est, dans le monde. Voilà, donc on y retrouve la pratique du tai chi, de la médecine chinoise, il y a aussi des cours d'anatomie, d'ostéopathie pour essayer de mieux comprendre le corps humain sous ses différentes facettes, du chant grégorien qui est proposé, des écoutes anatomiques.
Des écoutes anatomiques, c'est quoi
des
ça?
Écoutes anatomiques, c'est des techniques ostéopathiques pratiquées assez couramment maintenant dans les différentes écoles d'ostéopathie. François Loutrel, le responsable de l'école et du jardin intérieur, est lui-même ostéopathe. Donc il porte cet enseignement au sein de cette formation. On va y retrouver autre chose aussi, un peu plus de méthodologie du questionnement, apprendre à se poser les questions,
les bonnes questions surtout.
Voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi sur une manière de penser sa vie.
Et ça, c'est un cours de quoi ça? Comment ça s'appelle?
Donc ça, c'est l'Emniscate Processus, c'est la formation, devenir son propre thérapeute. Il y a un beau site internet aussi à aller consulter. L'Emniscate, c'est le nom de ce signe de l'infini en mathématiques, là, ce 8 horizontal.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
Donc il y a un grand rôle dans le vivant également, c'est ce qu'on découvre entre autres dans cette formation.
Très bien. Il y a aussi un centre de soins.
Voilà, donc...
Un moment pour soi, entre
parenthèses. Plusieurs thérapeutes qui sont présents. C'est un collectif de thérapeutes qui est en train de se monter. Mm-hmm. Donc pour le moment, François Loutrel y est, lui, depuis 2 ans. Et on y retrouve une personne qui fait de la gestalt-thérapie. On y retrouve des masseurs, masseuses. Il y a un centre balnéo, sauna. Et récemment, un acupuncteur et une personne... qui fait de la sophrologie, voilà, qui ont rejoint le collectif.
Très bien, donc on peut aussi venir suivre un cours de sophro.
Voilà, donc ça,
se faire traiter en acupuncture,
voilà, c'est
si
ça.
On le souhaite.
Voilà, c'est ça. Donc là, il faut prendre contact directement avec les thérapeutes, mais le jardin intérieur a toute une partie de son bâtiment qui est dédiée au centre de soins.
Il y a un site.
Il y a un
site. Il serait bien de donner peut-être pour le jardin intérieur.
Il y a un site du jardin intérieur. Alors je l'ai pas là. Il va être sur la plaquette. C'est un site qui est en train d'être refait pour les personnes qui se jetteraient sur le web. Pardonnez-nous, il y a quelques petits bugs en ce moment, mais le projet de mise à jour est lancé. C'est un site qui, si sur Google on tape le jardin intérieur Nîmes, on tombe directement dessus.
En tout cas, moi, en attendant, j'ai celui du Tai Chi, c'est le www.tai-chi-nîmes.fr.
Voilà, et le site du jardin, c'est www.jardin-6-intérieur-6-nîmes.com.
Voilà, facile, donc les deux sont faciles. Et comme vous le disiez, c'est vrai qu'en tapant jardin intérieur, on trouve...
Alors, jardin intérieur, ça suffit pas tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour de ces deux mots sur le web. Mais si on rajoute Nîmes, on est
Nîmes.
Dessus.
Alors, jardin intérieur, Nîmes. Et sur ce site, vous aurez tous les renseignements.
Voilà, les renseignements, les locations de salles aussi, qui sont une des activités principales du jardin, pour des séminaires, des conférences, des soirées. Voilà, le jardin est aussi en train de se développer à Montpellier. On a la salle de Tai Chi de Montpellier, ce coup-ci, va accueillir cette même idée phare que le jardin intérieur à Nîmes. On est en train de le développer à Montpellier aussi.
On peut savoir où ça, dans Montpellier, parce qu'on a pas mal d'auditeurs, enfin d'internautes sur Montpellier.
À Montpellier, la salle de Tai Chi est dans le quartier près d'Arènes. Au 204 rue du Mion-Saint-Michel.
Donc c'est pas d'Arène, ça c'est un lieu...
C'est sud, c'est Montpellier Sud, c'est derrière la gare à une dizaine de minutes. Il y a le tram numéro 4 maintenant qui dessert ce lieu depuis un an ou deux, on est très contents. Et donc on est en train de...
Vous garez votre voiture à l'Odysseum, c'est ça?
On peut garer sa voiture même à côté de la salle.
Sinon on prend le tram.
Sinon on prend le tram et c'est l'arrêt Saint-Martin et ensuite c'est à 2 minutes à pied. Il y a un petit plan sur le site Tai Chi Montpellier.
Très bien. C'est aussi grand que jardin intérieur?
Non, c'est à taille beaucoup plus raisonnable. Quelle taille ça fait? Je ne sais pas, 100 mètres carrés, quelque chose comme ça.
Combien vous prenez de personnes d'adhérents dans une séance de Tai Chi?
En général, entre 20 et 30 personnes.
Ouais.
Il faut savoir que notre école est aussi un centre de formation pour jeunes enseignants, dont je fais partie. Et donc, à chaque cours, il y a à la fois l'enseignant et à la fois un assistant qui est là pour gérer aussi le groupe, faire des temps de répétition de la forme, des choses comme ça. Donc, à 20-30 personnes, on peut voir un peu tout le monde et apporter vraiment ce qu'il faut à chacun.
Il y a plusieurs écoles de Tai Chi?
Oui, il y a plusieurs écoles. À l'origine, à Nîmes, par exemple, on fête les 30 ans de l'école cette année, à Nîmes et à Montpellier. François Loutrel était le seul à proposer le Tai Chi. C'était vraiment tout nouveau en France. Maintenant, il y a, je sais pas, autour de Nîmes, une dizaine sans doute d'écoles.
Mm-hmm. D'accord. Et toutes se revendiquent de l'ITCCA?
Non. Il y a beaucoup de styles différents dans le Tai Chi. Donc chaque enseignant s'est formé à un style sans doute un peu particulier. Nous, l'école ITCCA est une école particulière parce que on a la chance d'avoir un maître vivant. Ce qui est rare au jour d'aujourd'hui, ça. Maître Chou est reconnu mondialement.
Quel âge a-t-il ce
maître? Il a 65 ans.
Bon, ça va, il a encore le temps.
Il y a encore de belles années devant l'école. Donc ça, c'est la chance au sein de cette école d'avoir vraiment un enseignement qui peut
progresser
longtemps. François Loutrel, ça fait 40 ans qu'il se forme auprès de Maître Chou et tous les enseignants de l'école ITCCA se forment auprès de François. Donc on a affaire, quand on est adhérent, à des enseignants qui sont vraiment dans un mouvement d'apprentissage aussi. Et c'est pas simplement des personnes qui ont appris 5 ans, par exemple, le Tai Chi, qui ont fait 3 voyages en Chine, et qui ensuite vont monter un cours pour apprendre ça.
Est-ce que vous avez des remises à niveau, entre guillemets, régulièrement?
Oui, il y a des remises à niveau qui sont faites auprès de François Loutrel, pour les enseignants référents de l'école ITCCA qui sont faites auprès de Maître Chou directement, une fois par an. Et ensuite, les enseignants passent les diplômes de la Fédération française de Wushu. Wushu, c'est les arts martiaux chinois, qui ont mis en place des diplômes jeunesse et sport en lien donc avec le ministère du Travail. Voilà, donc les enseignants passent petit à petit ces diplômes pour pouvoir vraiment valider d'un niveau aussi...
Voilà, c'est validé par un diplôme.
Voilà, maintenant c'est validé par un diplôme depuis quelques années.
Donc études diplômantes.
Études diplômantes pour ceux qui le souhaitent, c'est pas encore complètement obligatoire dans le paysage du Tai Chi Chuan en France, mais ça va le devenir. Donc nous,
c'est une sécurité hein, pour ceux qui viennent.
C'est une sécurité pour ceux qui viennent, même si c'est à double tranchant. Nous, ce qu'on trouve dommageable, c'est le fait que des gens à un moment donné se forment et arrêtent de se former pour ne plus que donner des cours. Et du coup, on a quelque chose qui est coupé d'un mouvement, donc de quelque chose de vivant. Donc si les gens se mettent à passer ces diplômes de la fédération et s'arrêtent d'apprendre ensuite parce qu'ils ont le diplôme qu'ils peuvent enseigner, c'est dommage. Ces diplômes sont vraiment bien parce qu'ils valident un niveau minimum. Donc toutes les personnes qui avaient vraiment très très peu de niveau vont
ressortent avec assez de connaissances.
Oui.
Mais à peaufiner au fur et à mesure que les années passent, puisque vous disiez que vous-même, vous avez des stages de remise à niveau et qu'il y a toujours du nouveau et aller de l'avant.
Voilà, il y a environ un stage de tai chi par mois, par exemple, dans notre école.
Ouais.
Pour les personnes qui le souhaitent, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça peut vraiment devenir l'histoire d'une vie, le tai chi, comme en parlait Claire tout à l'heure, et qu'on n'en finit jamais de découvrir toute la magie qui se trouve dans un corps humain.
Je vous regarde faire, là, vous avez les mains qui bougent, comme si vous étiez en séance. Là.
Mais oui, on a le geste et la parole ensemble. Voilà, ça fait vraiment partie des cours de tai chi. Et quand là, on est dans la période de rentrée, on fait beaucoup de stages et de cours découvertes. Donc j'ai l'habitude de parler du tai chi face aux gens en démontrant par le mouvement un peu les propos. Donc là, ce qui est différent à la radio, mais...
Vous avez des doigts de pianiste, on vous l'a déjà dit, ça ?
Oui. Ma grand-mère me le disait.
Pause musicale et la conclusion tout de suite après avec mon invité Simon Guimau qui est avec nous pour parler du tai chi.
Have you ever met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. I find the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. And I find the moment that I make friends with a woman, I become selfish and tyrannical.
Voilà, j'espère qu'on a réussi à vous convaincre si vous cherchiez une activité pour vous détendre, pour
vous rendre curieux,
bien,
en tout cas d'aller essayer.
Voilà, avec ce Tai Chi Chuan ou Qigong.
Qigong. On va dire Qigong.
Qigong.
Voilà, ça s'écrit Q-I, mais ça se dit Qi.
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 Ouais, on reprend, c'est le même Qi que...
Voilà, c'est le Qi dont on parle depuis le début, c'est souffle.
Ouais, souffle, énergie, on a bien compris
voilà,
ça.
Voilà, énergie.
Aussi. Alors j'espère que bah, si vous avez envie, si vous êtes du côté de Nîmes, vous pouvez toujours aller là-bas. Hein,
du côté de Nîmes, du côté de Montpellier, du côté d'Avignon, et même l'école s'étend, en fait cette école ITCCA gérée par François Loutrel s'étend sur toute la Méditerranée, donc ça va depuis Perpignan, Narbonne, jusqu'à Marseille et le Puy-en-Velay pour l'école la plus au nord, donc... N'hésitez pas à aller taper ITCCA, le nom de votre département.
Et là, on trouve toutes les villes,
voilà, toutes les villes
qui
sont concernées.
Où on peut retrouver justement cette méthode ITCCA.
ITCCA, voilà. C'est une méthode. Le site, je peux le donner, c'est thai-chi-processus.com. Et sur ce site, c'est le site de la branche qui va regrouper les coordonnées de toutes les écoles et qui va amener beaucoup d'informations sur ce qu'est le tai chi. Un site très général. Sur cette pratique du Tai Chi Chuan et du Qigong, dans notre école.
Dans votre école.
Dans notre école.
Absolument, pas ailleurs.
Pas ailleurs, voilà,
on est
partage,
bien d'accord
on partage ce qu'on connaît. Donc
absolument.
On va pas...
absolument. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, qu'est-ce qu'on peut leur dire en cette fin d'émission
L'envie n'est pas de convaincre, mais c'est plutôt... moi, quand j'ai fait mon premier cours de Tai Chi, juste pour essayer, que j'ai entendu... Donc, c'était François Loutrel qui donnait le cours, que j'ai entendu parler et pratiquer. Il y a quelque chose en moi qui a résonné. Ça m'a interrogé. Donc, du coup, j'ai eu envie de fouiller un peu plus, de découvrir ce que c'était. Donc, c'est plutôt, si les auditeurs là, ont des choses qui les interrogent, d'être curieux, d'oser être curieux, d'aller essayer, ça n'engage à rien. C'est une grande qualité, ça, dans la vie, de se remettre en mouvement, de sortir un petit peu de ses habitudes, parfois. Donc, voilà, moi, c'est ça que je pourrais engager comme mouvement de vie.
Très bien, c'est un beau pari, quelque part.
Oui, c'est un pari, en sachant qu'il n'y a pas grand-chose à amener, juste l'envie d'aller découvrir.
L'envie de changer, j'ai envie de dire aussi.
L'envie de changer.
Il n'y a pas que ça.
Bien sûr, il faut avoir l'envie de changer. Claire, tout à l'heure, dans son témoignage, amenait une idée intéressante dont on n'a pas parlé, qui est le fait que ce n'est pas toujours facile. Elle disait, parfois, ce n'est pas toujours facile, il faut y aller, on n'a pas toujours envie.
Oui, il faut être assidu.
Il faut être assidu, parce que quand on travaille sur les tensions, ça peut être un petit peu douloureux au départ. Donc, il faut avoir envie de se dire... J'y amène un petit peu d'effort volontaire parce qu'on va étirer, travailler. Donc même si c'est en douceur, ça parfois il faut faire le choix. Soit on a envie d'être peinard, soit on a envie de changer. Et quand on veut changer, il faut passer par quelque chose d'un petit peu, d'avoir une intention, une envie de. Et après, il faut faire confiance dans le fait que tout l'effort qu'on va amener va nous être rendu au centuple dans l'idée dans la sensation de bien-être et au quotidien cette joie qui peut petit à petit revenir. Il faut faire ce pari-là au départ, peut-être, de se dire, allez, parfois c'est un peu difficile, mais ceux qui font ce pari...
La démarche de sortir de chez soi, puis d'y aller aussi. Hein.
Voilà.
On rentre le soir, on est un peu crevé, on n'a pas nécessairement envie de bouger. Donc il y a cet effort aussi.
Il y a ce petit pari à faire aussi,
et
voir si on n'est pas mieux après la séance, finalement, que si on était resté chez soi, tranquille.
Ouais, à s'abêtir devant un film à la télé.
Ou autre,
par exemple.
Ou autre, par exemple.
Ce qui est le cas en ce moment. www.tai-chi-nimes.fr, voilà le site où vous allez pouvoir vous renseigner, trouver tout ce qu'il est bon de savoir. Hein.
Voilà, pour l'école de Nîmes, après de remplacer Nîmes par Montpellier ou de taper Tai Chi Avignon pour trouver l'école d'Avignon par exemple, ou ainsi de suite.
Elle est où l'école d'Avignon, vous avez une idée?
Elle est à la salle Mérindol, c'est une salle municipale qui est juste près du pont de l'Europe. Il y a d'autres cours cette année que je ne connais pas, qui se sont ouverts un petit peu ailleurs dans Avignon et Montfavet, je crois.
D'accord, dans le Vaucluse, donc nous avons aussi nos écoles.
Voilà, une grande école qui a 30 ans également.
Est-ce que Monsieur Loutrel est un personnage disponible? Est-ce qu'on pourrait l'avoir, vous pensez, ici un jour?
Oui.
Dans cette même émission?
Oui, oui, bien sûr.
Parler avec lui du tai chi, mais pas que, d'ostéopathie.
Du projet de compétences. Du jardin intérieur,
ouais.
Son domaine de compétences, et bien sûr. Ça pourrait
être vous lui
un
transmettrez ma demande.
D'accord.
Ce serait agréable d'avoir aussi quelqu'un comme lui à l'antenne d'Osmose.
Avec plaisir.
Votre numéro de téléphone est le 04 66 26 10 16 83, pardon. 04
oui.
66 26 1683, ça c'est le numéro de téléphone du jardin intérieur.
Du jardin intérieur et de l'école de Tai Chi également.
de tout.
Voilà,
on regroupe tout.
Voilà, là, on a une seule ligne téléphone pour l'ensemble des activités qui sont proposées au jardin. Donc, pour le tai chi, vous tomberez sur quelqu'un qui a les renseignements. C'est bon.
Ok, il n'y a pas de souci. On est sûr que ça fonctionne bien. Voilà. C'est bien rodé déjà, au bout de tant d'années.
Au bout de tant d'années, ça fait 5 ans qu'on est sur le lieu, mais ça commence à trouver un équilibre qui tourne rond. Ça va.
Est-ce qu'on peut se garer facilement autour?
Oui, oui, oui. Il y a un très grand parking juste à côté. Donc ça, on est vénard par rapport à ça. C'est à 2 minutes de la sortie d'autoroute Nîmes-Est. C'est-à-dire pour les personnes, par exemple, qui sont à Nîmes-Ouest, on peut prendre l'autoroute et on est très rapidement de l'autre côté. Et ensuite,
ouais, et quand on vient d'Avignon ou de Rémoulin,
donc c'est pareil,
première
c'est
sortie.
Première sortie Nîmes-Est. Et,
au rond-point.
Et on y est.
Donc, direction Marguerite, c'est ça?
Voilà. Quand on sort de l'autoroute Nîmes-Est, on prend à droite direction Marguerite.
Oui.
On fait 200 mètres environ.
On revient.
Et à ce rond-point, on fait demi-tour et on rentre dans la contre-allée de la zone de la Ponche. Donc c'est parfois un peu difficile à trouver la première fois, on est d'accord. On fait
c'est un peu le jeu de piste, hein, j'avoue.
Un peu le jeu de piste, on fait des gros efforts sur,
Le fléchage.
Sur le fléchage et l'affichage, voilà. Donc ça a bien évolué depuis 2 ans. Mais si on fait ce petit effort de chercher un petit peu pour le moment, et ben après on retrouve facilement, on est content d'y revenir.
Une fois qu'on est venu, c'est sûr que voilà.
Ouais.
On y a goûté, on ne veut plus lâcher. C'est un petit peu ça.
Possiblement.
En tout cas, c'est votre cas. Hein.
En tout cas,
vous êtes arrivé, Claire aussi.
C'est ce qui m'est arrivé voilà, depuis 8 ans. C'est avec vraiment passion et envie que j'y suis, que je suis investi là-bas maintenant aussi.
Voilà, bah, j'espère que voilà, si vous nous écoutez, que ça va vous donner le déclic, vous aussi. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on y va par hasard une première fois pour tenter.
Voilà.
Et puis, ben, on se fait avoir, quoi.
Et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, finalement, que la petite porte d'entrée qui nous y a amené pour les différentes raisons dont on a pu parler tout à l'heure. Après, finalement, on a beaucoup d'autres choses à découvrir. Donc, c'est très riche.
C'est très riche et c'est un art de vivre. On va reprendre les termes de Claire pour la conclusion. Merci beaucoup.
Merci à vous pour votre invitation.
Au revoir Simon et à très vite.
Au revoir.
Au revoir.